Chapitre 33. Je m'appelle Amy Mary Grayson. Amy Mary Grayson. Assise dans la Kronvik de Bobby, j'agrippais les cendres de mes parents en me répétant encore et encore mon vrai nom pour voir s'il allait me monter naturellement aux lèvres. Nous avions déjà rejoint la Nationale 2, en route pour quelque part. Ça n'avait pas vraiment d'importance pour moi. Amy Mary Grayson. Cela semblait toujours artificiel, guindé dans ma bouche. Toute ma vie, je m'étais considérée comme deux personnes, Annabelle Granger et le pseudonyme du moment. Maintenant, à en croire Monsieur Schwepp, j'étais en réalité trois personnes. Amy Grayson, Annabelle Granger et... les autres. Cette idée me désorientait. J'appuyai la tête contre la vitre fraîche de ma fenêtre et revis fugitivement mon père assis en face de moi chez Giacomo pour mon 21e anniversaire, l'air heureux. Mon père avait gagné. Je n'avais jamais compris parce qu'il ne m'avait jamais laissé prendre part à sa guerre, mais cette soirée, mon anniversaire, dut lui apparaître comme une victoire. Il avait perdu sa mère, il avait perdu sa femme, mais sa fille... Moi, au moins, il m'avait protégée, même si cela lui avait tant coûté en cours de route. Et j'étais maintenant abasourdie, humiliée aux larmes qu'il ait considéré ma vie comme une victoire. Il avait renoncé à sa carrière pour moi. Il avait renoncé à ses voisins, à sa maison, à sa propre identité. Pour finir, il avait renoncé à sa femme. Je le revois distant, je le revois implacable, dur, agressif. Mais je ne me souviens pas de lui amer ou mesquin un seul instant. Il a toujours eu sa cause, son objectif, même si sa paranoïa me rendait folle. Et maintenant que je connaissais toute l'histoire, la seule chose que je voulais, c'était revenir en arrière pour lui dire que j'étais désolée, pour l'étreindre avec gratitude, lui dire que je comprenais enfin. Mais mon père n'avait jamais voulu faire de moi une gentille fille. Nous nous battions, sans relâche, sans répit, en partie parce que mon père aimait ça. Il avait élevé une battante, et il aimait mettre mes capacités à l'épreuve. Amy Mary Grayson. Amy Mary. Et juste un instant, je pus presque l'entendre, la voix de ma mère qui roucoulait doucement. « Coucou, mon petit ange. Bonjour, mon ami, ma jolie Mimi. » Je pleurais. Je ne voulais pas... Mais l'énormité de tout cela me rattrapait d'un seul coup. Le sacrifice de ma mère, les deuils de mon père, et j'étais secouée d'affreux et violents sanglots, à peine consciente de la main de Bobby sur mon épaule. Puis la voiture ralentit, se rangea. Ma ceinture remonta, Bobby m'attira sur ses genoux, manœuvre compliquée par l'obstacle du volant. Mais ça m'était égal. J'enfouis mon visage dans son épaule. M'accrochais à lui comme une enfant et sanglotais parce que mes parents avaient tout donné pour me sauver la vie et que je leur en avais voulu de le faire. « Chut !» murmurait-il encore et encore. « Dory est morte à cause de moi. Chut !» « Et mes parents ? Et cinq autres petites filles ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai de si spécial ? Je ne suis même pas capable de garder un boulot et ma seule amie est une chienne !» À point nommé, Bella sur la banquette arrière poussa un gémissement inquiet. J'avais oublié sa présence. Elle bondit sur le siège pour passer à l'avant. Je sentis sa patte sur ma jambe. Bobby ne la repoussa pas. Il continua à murmurer des mots réconfortants à voix basse. Je sentais ses bras forts autour de moi, son étreinte dure et musclée. Cela me rendit un peu folle. Qu'il puisse sembler tellement réel, tellement fort, alors que j'avais l'impression que ma vie se désagrégeait, réduite en menus morceaux emportés comme des confettis. Et j'étais heureuse en cet instant que nous nous trouvions dans une voiture au bord d'une grande route passante, parce que si nous avions été dans mon appartement, je l'aurais déshabillée. J'aurais enlevé chacun de ses vêtements, un à un, juste pour pouvoir toucher sa peau, faire courir ma langue sur les sillons de son ventre, goûter le sel de mes larmes sur son torse. Parce que j'avais tellement besoin d'aller plus vite que mes pensées, de ressentir l'intensité d'un moment éperdu, de me sentir vivante. Amy Mary Grayson. Amy. Mary. Grayson. Oh, Dory, je suis tellement désolée. Oh, Dory. Bobby m'embrassa. Il releva mon menton, posa ses lèvres sur les miennes. Et c'était si doux, si tendre que j'en pleurais à nouveau, jusqu'au moment où je pris sa main pour la poser sur mon sein, violemment, parce que je ne voulais pas me sentir comme du verre, que je ne voulais pas qu'il me voie comme quelqu'un qui allait se briser. Amy Mary Grayson, dont l'oncle avait détruit toute la famille, et l'avait retrouvée la nuit précédente. Je m'écartai, me cognai le coude au volant. Bella gémit encore. Je glissai des genoux de Bobby pour regagner mon siège et attirai Bella à moi. Bobby n'essaya pas de m'arrêter, ne dit pas un mot. Je l'entendais respirer bruyamment. Je m'essuyais les joues, Bella m'aida à coups de langue enthousiaste. « Il faut que je rentre travailler, » dis-je tout à coup. « Faire quoi ?» demanda Bobby avec un drôle de regard. « J'ai un projet à rendre, Back Bay. Ma cliente va se poser des questions. » Bobby me regarda. « Annabelle. Ami ?»« Annabelle. » »« Annabelle, c'est... Je suis habituée. Annabelle. » « Annabelle, il faut trouver un nouvel appartement. » « Pourquoi ?» Air étonné. « Eh bien, pour commencer, un cinglé sait que vous habitez là. » « Le cinglé n'est pas exactement de première jeunesse, et je ne suis pas une proie facile. »« Vous n'avez pas les idées claires. »« Vous n'êtes pas mon père !»« Oh là, du calme. Malgré mon... intérêt personnel évident, » dit-il en rajustant son pantalon qui s'était joliment tendu, « je suis toujours enquêteur. Nous sommes formés à ce genre de situation. » Par exemple, quand un prédateur obsessionnel approche de sa cible, on peut prévoir qu'il va se passer du vilain. Ce Tommy, quel que soit le nom sous lequel il se promène aujourd'hui, a manifestement découvert que vous viviez à North End. Il a passé la dernière journée à entrer par effraction chez une policière, a organisé une embuscade avec 4 chiens d'attaque et a déposé une marque d'affection devant votre porte. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Donnez-nous un jour ou deux. Restez à l'hôtel, faites profil bas. Il y a une différence entre se montrer prudent et fuir la peur au ventre. « Un hôtel ne me laissera pas garder Bella, » dis-je buté, en serrant mon chien plus fort dans mes bras. « Oh, bon sang, il y a des établissements qui acceptent les animaux. Laissez-moi passer quelques coups de fil. »«
Il faut que je travaille, vous savez. Mon charme ne suffit pas à payer les factures. »«
Alors prenez votre machine à coudre. »«
Il me faudra aussi du tissu, mon ordinateur, des garnitures, des croquis.
Je vous aiderai à charger. »
Je lui jetai un regard noir, sans raison valable, puis appuyai la tête contre la fourrure de Bella. « Je voudrais que ce soit fini, » avouai-je. Son regard s'adoucit enfin.
« Je sais. »«
Je ne veux pas être amie, » murmurai-je. « C'est déjà assez dur comme ça d'être Annabelle. »
Bobby me raccompagna à mon appartement. Je descendis de voiture juste à temps pour entendre un coup de klaxon. Je me retournai. Bella aboya furieusement. Au bout de la rue avançait pesamment un énorme camion UPS. Ben, mon chevalier sur le retour, à bord de son fidèle destrier brun. Il ralentit, nous regarda moi et Bella avec inquiétude. Je lui fis signe que tout allait bien, et avec un hochement de tête solennel, il continua.
« Vous voyez ? » dis-je à Bobby.
« Je pourrais aussi rester dans mon appartement. Avec un service de livraison en 24 heures chrono à mes côtés, à quoi bon la police ?» Bobby ne sembla pas goûter la plaisanterie. Il nous raccompagna, Bella et moi, à l'appartement. Quelqu'un, les techniciens, un enquêteur, je ne sais pas, avait vaguement tenté de remettre les choses à leur place. Mon appartement semblait avoir essuyé un coup de vent, mais à part ça, il était en bon état.
« Donnez-moi une heure, » dit Bobby. « 2 au maximum. Il faut que je creuse quelques pistes, que je remette 2-3 trucs en ordre.
« Il faut que vous retrouviez Tommy, » dis-je, « et que vous disiez à Didi d'arrêter de soupçonner mon pauvre père. »
Bobby me regarda en plissant les yeux, mais ne poussa pas plus loin.
« Je vous sonne quand j'arrive. »«
Oui, chef, bien, chef. » »«
Prenez des affaires pour une semaine, par précaution. Je peux toujours repasser prendre quelque chose en cas d'oubli. »«
Vraiment ? Mon soutien-gorge en dentelle noire préféré, par exemple ? Un string rose vif tout à fait indispensable ?»
Ses yeux s'embrasèrent dangereusement. « Mon ange, je serais ravi de faire une rafle dans le tiroir de vos sous-vêtements, mais rappelez-vous que ce sera peut-être un agent en tenue qui prendra l'appel. »«
Oh, » dis-je avec un haussement d'épaule. « Je suppose que je peux emporter mes petites culottes toutes seules, alors ?»«
Prenez tout ce dont vous avez besoin, Annabelle. On peut remplir la voiture à ras-bord, si vous voulez. »«
Ça ne sera pas nécessaire. Il se trouve que je sais très bien voyager léger. » Ma bravade ne le trompa pas une seconde. Il s'approcha, m'attrapa avant que je puisse protester et m'embrassa fougueusement.
« 2 heures, » répéta-t-il, « à tout casser. »
Et il s'en alla. Bella pleura comme un bébé à la porte. Quant à moi, je me demandais comment une adulte pouvait se sentir aussi vulnérable dans son propre appartement. Bobby commença à jouer du portable dès qu'il regagna sa voiture. Il avait des noms, maintenant il voulait des informations. Il commença par Didi, mais tomba sur son répondeur. Idem pour Sincus. Après un bref débat intérieur, Bobby prit sa décision. La police de Boston était à saturation, et il lui fallait des renseignements rapidement.
Oh, puis zut, il travaillait pour l'État, oui ou non? Il demanda un service à un vieux pote pour faire avancer le schmilblick. Il voulait savoir tout ce qu'il y avait à savoir sur A. Tommy Grayson, B. Roger Grayson, C. Lucille Grayson et D. E. et F. Presque une idée après coup. Gregory Baddington, Paul Schwepp et Walter Petracelli. De quoi les tenir occupés un petit moment. Si le récit de Schwepp était exact, le voyeur d'Annabelle était très probablement son oncle, Tommy Grayson. Et le plus logique était que le voyeur d'Annabelle était aussi celui qui avait tué Dory Petracelli et enseveli son cadavre à Mattapan. Ce qui signifiait que Tommy Grayson avait réussi à les suivre de la Pennsylvanie au Massachusetts. Et puis quoi? Tommy savait que la famille d'Annabelle avait fui. S'il les avait suivis de Philadelphie à Arlington, c'était logique qu'il les suive à nouveau. Contrairement à Christopher et Ola, Tommy n'avait pas de fortune personnelle. Ce qui signifiait que s'il avait continué à traquer la famille d'Annabelle, il avait dû affronter des difficultés logistiques de base. Comment gagner de l'argent pour le logement et le transport? Comment trouver un nouveau boulot dans une nouvelle ville tous les 2-3 ans? Ce qui signifiait qu'il avait probablement occupé des emplois subalternes. D'après Schwepp, il avait travaillé comme videur à Philadelphie. Le genre de boulot qu'on déniche facilement au pied levé. Il fallait qu'il transmette le portrait de Tommy à la police de chacune des villes en recommandant de le distribuer dans les bars. On pourrait peut-être repérer les déplacements de Tommy, reconstituer la chronologie de ses voyages. Mais comment Tommy avait-il retrouvé la famille d'Annabelle à chaque fois? D'après Schwepp, le père d'Annabelle était intelligent. Il avait rapidement tiré les leçons de ses erreurs. Pourtant, en règle générale, la famille déménageait tous les 18 mois à 2 ans. Mesure préventive de la part du père d'Annabelle? Dès que les journaux annonçaient une disparition d'enfant, il avait la frousse et faisait les bagages de toute la famille. Ou bien Tommy était-il si fort que ça? Bobby voulait en savoir plus sur Tommy et sur le père d'Annabelle. Naturellement, les bonnes places de parking près du commissariat étaient prises. Bobby fit 4 fois le tour et eut finalement la chance de voir quelqu'un partir. Il se faufila dans la place et, toujours perdu dans ses pensées, verrouilla la Kronvik et entra dans le bâtiment. La première chose qu'il remarqua en franchissant les portes vitrées de la criminelle fut le silence. La standardise Gretchen regardait son écran d'ordinateur d'un air absent. 2-3 types brassaient du papier à leur bureau sans entrain. Il tapota le comptoir devant Gretchen. Elle leva finalement les yeux. « Quoi ? » demanda-t-il à voix basse.
« La mère de Tony Rock, »
murmura à son tour la standardiste.
« Oh merde !»
Il a appelé il y a une demi-heure. Il n'avait pas l'air bien du tout. Le commandant Warren essaie de le joindre depuis, mais il ne répond pas au téléphone.
« Oh non !»
Probablement juste besoin d'un peu de temps.
C'est sûr.
Quelle merde. Quand vous saurez pour l'enterrement, je passerai le mot,
promit Gretchen. Bobby la remercia d'un signe de tête et se dirigea droit vers le bureau de Didi. Elle était au téléphone mais leva un doigt en l'apercevant. Il s'appuya contre le montant de la porte, écouta une moitié de conversation qui consistait essentiellement en « Oui, c'est vrai ». Elle devait être en ligne avec la hiérarchie. Bobby posa son épaule contre le cadre en bois. Et d'un seul coup, la fatigue lui tomba dessus. Le guet dans les bois. Didi cloué au sol, agressé par un gigantesque Rottweiler. Une fois celle-ci tirée d'affaire, appeler Annabelle et entendre sa voix apeurée au bout du fil. Nouvelle traversée de la ville à tombeau ouvert en se demandant ce qu'il allait trouver, avec la crainte d'arriver trop tard. Était-ce ce que le père d'Annabelle avait ressenti à une époque? Comme si sa vie lui échappait? Comme s'il voyait le train arriver mais restait paralysé entre les rails? Bon sang, il avait besoin d'une bonne nuit de sommeil. Didi finit par raccrocher.
« Désolée pour ça, » dit-elle.
« La mère, je sais. »«
Évidemment, il sera absent quelques jours. »«
Sûr. » »«
Moyennant quoi, et ça ne fait pas de mal de travailler dur, ça forge le caractère. »«
Alors ?» dit-elle.
« Alors, le vrai nom de Russell Granger est Roger Grayson. Lui, sa femme, Lucille Grayson. » Et leur fille nouveau-née, Amy Grayson, ont été harcelées par le frère déséquilibré de Roger, Tommy Grayson, quand il vivait à Philadelphie. Roger pensait que Tommy était allé jusqu'à assassiner les parents de Lucille un après-midi où ils avaient emmené Amy au parc. Peu de temps après, Roger s'est organisé pour emmener toute sa famille vivre à Arlington sous le nom de Granger. Malheureusement, il ne savait pas comment se procurer une fausse identité, de sorte que tous les documents financiers restèrent à leur vrai nom. D'après Paul Schwepp, l'ancien directeur des mathématiques au MIT, Roger était persuadé que Tommy les avait retrouvés en 82. C'est là qu'il a organisé la deuxième fuite de sa famille, mais cette fois-ci en faisant tout ce qu'il fallait.
« Tu parles d'un truc ?» dit Didi.
«
J'ai un copain qui fait des recherches sur les noms de Roger, Lucille, Tommy et quelques autres. Tommy a des antécédents criminels, donc ça devrait être dans les fichiers. La question à $1 million, c'est... Quand Tommy a compris que la famille d'Annabelle lui avait filé entre les doigts, est-ce qu'il est resté dans le Massachusetts ou est-ce qu'il est parti sur les routes? Et, accessoirement, où est-il maintenant?
Didi se frotta les tempes. Notre principal suspect est Tommy Grayson?
Ouais. Navré de te décevoir, mais je crois bien que le père d'Annabelle est mort.
Mais pourquoi se faire passer pour un agent du FBI?
Russell a fait le même rapprochement que nous, à savoir que Catherine ressemblait étonnamment à Annabelle. Il craignait que son agression ne soit l'œuvre de Tommy. Comme il ne voulait pas se faire connaître, il ne pouvait pas aller voir la police et il s'en est donc occupé lui-même.
Mais Tommy n'était pas l'agresseur de Catherine.
Non, la ressemblance entre Catherine et Annabelle est une pure coïncidence. Pourtant, la méthode d'Umbrio a probablement inspiré Tommy quand il s'est servi d'une cavité souterraine 2 ans plus tard. Les deux affaires ont donc un lien, mais lointain.
Et Christopher et Ola?
Très certainement un meurtrier, mais pas le nôtre.
Charlie Marvin?
Un ancien pasteur sans prétention qui travaille au foyer de Pine Street Inn. D'après les témoins, il y était la nuit dernière.
Adam Schmidt?
Pas la moindre idée. Il faudrait demander à Sinkus.
Il te cherchait. Il a passé l'après-midi avec Jill Cochrane, de l'hôpital psychiatrique. Il faudrait que vous échangiez vos infos tous les deux.
Bobby la regarda avec des yeux ronds.
C'est tout? Je déniche la véritable identité du père d'Annabelle, je découvre le poteau rose et je me fais engueuler parce que je n'ai pas, comme par magie, déjà fait le point avec mes collègues.
« Je ne t'engueule pas, » ronchonna-t-elle. « Mais je pense que tout ton génie laisse encore une faille béante dans l'enquête. »
À savoir,
où se trouve Tommy Grayson en ce moment quand il ne rôde pas autour de l'appartement d'Annabelle ou dans les bois pour y poster des chiens dressés?
Parfait. La prochaine fois, je livrerai le suspect sur un plateau d'argent.
Il me semble, continua Didi comme si elle n'avait rien entendu, que si le reste de la famille Grayson a pris de nouvelles identités, Tommy a pu en faire autant, et que notre meilleure chance de découvrir cette identité et de retrouver ce fils de garce au plus vite est de nous pencher sur l'autre morceau du puzzle que nous connaissons.
L'autre morceau du puzzle?
L'hôpital psychiatrique.
Oh, dit Bobby un peu perdu.
Et tout de suite? L'illumination.
Ok. Ouais, bien sûr, on en revient à notre première théorie. Le tueur devait avoir un lien quelconque avec l'hôpital psychiatrique pour pouvoir tranquillement ensevelir 6 corps dans le parc. Donc, si notre tueur est Tommy Grayson, qui, d'après toi, a un passé troublé, c'est un cinglé notoire, alors Tommy Grayson est probablement passé par l'hôpital psychiatrique de Boston. Et, conclut Bobby de lui-même, Sinkus détient cette information.
Tu devrais quand même faire un enquêteur correct, dit Didi pince sans rire. Autre chose que j'ai besoin de savoir?
Je cherche un hôtel pour Annabelle.
Didi parut étonnée.
Et je me disais, même si j'ai peut-être omis de lui en parler, que pendant qu'elle sera planquée dans le dit hôtel, on pourrait installer un leurre dans son appartement.
Didi fit la moue. Cher.
Bobby haussa les épaules.
C'est ton problème, pas le mien. Mais je ne pense pas que la situation va s'éterniser. Étant donné l'agitation rien que dans les dernières 24 heures, il me semble que Tommy est pratiquement à bout de patience.
Je vais voir ce qu'en dit le divisionnaire.
Dakodak.
Bobby s'apprêtait à partir.
Didi l'arrêta une dernière fois.
Bobby, dit-elle doucement.
Pas mal.